Mes chers amis, chaque année, en ouvrant le camp Mahanaïm, nous aimons souhaiter la bienvenue aux participants par un texte de la parole de Dieu. Cette parole qui ne passe pas alors que nous ne faisons que passer. L'Écriture nous dit qu'il n'y a pas d'espérance pour l'homme de demeurer toujours ici-bas. Nous ne faisons que passer. Mais l'Écriture demeure. Ce ne sont pas aux hommes que nous devons nous attacher, mais c'est à la parole de Dieu. Et cette parole que j'ai à cœur de vous donner ce soir, pour ouvrir notre 20e camp Mahanaïm, si nous comptons les deux camps que nous avons faits en Israël en 73 et en 78, nous arrivons donc à notre 20e camp Mahanaïm, donc 18 ici à Cedar Lodge. Et quelle est cette parole? Elle se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16, le verset 9, que vous connaissez peut-être déjà par cœur. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, ou, selon une autre version, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, afin de se montrer fort à l'égard de ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je veux croire qu'il y a parmi vous des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à lui. Et que pendant ces journées, vous rencontrerez son regard. Et dans la rencontre de votre regard avec son regard, une force toute nouvelle, une force incomparable vous sera alors donnée. Parce que les paroles que nous trouvons dans la Sainte Écriture sont esprit et sont vie. Elles ne nous laissent jamais intactes. Et s'il y avait parmi vous quelqu'un dont le cœur n'est pas encore tout entier à lui, ou qui ne connaît pas vraiment Dieu comme un Père, ni celui qui révèle le Père, Jésus, comme son sauveur personnel, eh bien, notre désir, sans faire aucun prosélytisme, notre désir pour vous, c'est que vous puissiez apprendre à le connaître de cette façon vivante et intime qui transforme nos vies. J'ai demandé à Dieu que dès le début du camp, nous puissions faire nôtre l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 1. Après avoir rappelé au verset 11 la vie de quelques hommes dont le cœur, au travers des âges et des difficultés différents, ont été tout entiers pour le Seigneur. Après avoir rappelé la vie de ces hommes, l'auteur s'écrit, étant donc environné d'une si grande nuée de témoins. Et je voudrais que vous puissiez éprouver qu'ici, dans ce lieu, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Le ciel nous contemple. Et tous ces héros de la foi qui sont cités au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux sont morts, bien sûr, selon le monde. Mais pour Dieu, Jésus nous l'a dit, qu'ils sont tous vivants. Pour Dieu, tous vivent. Et ils ne sont pas loin de nous. Ils nous entourent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Présence invisible. Mais nous sommes, depuis notre jeune âge, en communion avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et même avant avec Noé, avec Enoch, ces hommes qui ont craint le Seigneur et qui l'ont aimé de tout leur cœur. Ils sont vivants, ils nous entourent. Donc, nous ne sommes pas seuls. Alors, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, de tels exemples d'hommes qui ont pu témoigner dans leur vie qu'ils connaissaient l'action personnelle de Dieu, que Dieu agissait en eux, des hommes et des femmes qui ont été réellement habités par Dieu, pas des suiveux, mais des hommes et des femmes dont le cœur était devenu le temple même de Dieu. Dieu habitait en eux et eux étaient en lui. Alors, ayant ces exemples, il nous est recommandé de rejeter tout fardeau. Je ne sais pas avec quel fardeau vous êtes venu à ce camp. Peut-être n'en aviez-vous aucun. Mais si vous en aviez un, nous vous demandons que dès la première journée, vous puissiez rejeter ce fardeau. Dieu ne vous demande pas de le porter. Rejetez-le sur lui. Tout fardeau. Et le péché. Nous sommes tous des pécheurs, nous le savons bien. Et le péché nous enveloppe si facilement. On a fait bien des expériences de la délivrance du péché, mais quelquefois nous nous trouvons repris par le péché et il nous enveloppe, il nous enserre. Eh bien, cela aussi n'est pas nécessaire. Vous pouvez rejeter ce péché qui vous enveloppe si facilement sur lui, afin de courir la course, afin d'entrer dans cette carrière pour parvenir à une vie autre que celle que vous avez connue jusqu'à maintenant. Et comment cela peut-il se faire en ayant uniquement les yeux fixés sur Jésus? Du côté de Dieu, ses yeux vous cherchent. De votre côté et de mon côté, puissions-nous tous rechercher son regard. Et dans la rencontre avec ce regard, nous serons transformés. Il est le chef et le consommateur de la foi, celui qui rend notre foi parfaite. Vous êtes peut-être venu à ce camp avec une petite foi. Eh bien, Dieu peut augmenter votre foi. Et voyez-vous, ce soir, je suis particulièrement ému parce que je sais qu'au milieu de nous se trouve mon fils Jean-Bernard qui habite Lausanne. Et peut-être que certains parmi vous se souviennent de cette année où, à l'ouverture même du camp, nous recevions la nouvelle qu'il avait été affreusement blessé, que probablement il ne s'en tirerait pas, que ce serait peut-être mieux même que Dieu le reprenne, et que s'il s'en tirait, chose presque incroyable, il serait paralysé pour la vie, puisqu'il avait plusieurs fractures de la colonne vertébrale. Notre thème qui commençait ce soir-là, vous vous en souvenez? C'était le Dieu de l'impossible. Alors, comme père, que devais-je faire? Quitter le camp, on venait d'en terminer un, camp familial, avec Josaphat et Françoise, Ferland. Est-ce que je devais partir à Lausanne pour entourer ma belle-fille Annie et ses trois enfants pour être auprès de mon fils? Ou bien devais-je rester à mon poste? Je suis un soldat. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu de très grandes épreuves et j'ai toujours compris qu'un soldat, il reste à son poste. La guerre continue, même s'il tombe à vos côtés l'être le plus intime que vous avez pu posséder. On ne s'arrête pas. Un soldat comprend qu'il doit rester à son poste. Et j'ai compris que ça ne suffisait pas de proposer dans un camp comme celui-ci un thème pareil, le Dieu de l'impossible. Tu dis cela, eh bien, on verra. Est-ce que c'est possible que ton fils soit rétabli? Eh bien, il est là, au milieu de nous ce soir. Il faut quelquefois des faits pour nous ouvrir les yeux sur ce qu'est la vie de la foi. Ce n'est pas une aventure, c'est une épreuve, mais la foi est aussi une obéissance. Et on croit ce que l'on prêche. On ne donne pas des ordres à Dieu, mais on s'en remet à lui. Et vraiment, ce soir, en ouvrant ce camp, je suis très ému. Parce que j'ai un autre souvenir. Et en voyant particulièrement ma belle-fille, qui est vraiment ma fille, Annie. Parce que plusieurs parmi vous, enfin, en tout cas les responsables, se souviennent de cette soirée où plusieurs sont venus vers moi. On avait reçu un télégramme que la sœur d'Annie, qui était une ancienne campeuse, qui est aussi comme une fille pour nous, et qui nous a tant aidés pendant des années au travers des camps, et qui s'appelle Francine, était mourante et qu'on allait débrancher les appareils. Et je vois encore ces jeunes qui aimaient Francine, qui s'étaient attachés à Francine, qu'on appelait le mousse, parce qu'elle était toujours active sur l'eau comme sur terre. Eh bien, on s'est réunis dans cette chambre-là. Et ils étaient là autour de moi en me disant, envoyez un texte biblique. Et on était en prière. Et j'ai demandé à Dieu une parole, et il me l'a donnée. C'était dans Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Et nous avons envoyé ce texte à Nice, où habitait Francine. Et alors que le médecin-chef avait ordonné à son interne de débrancher, l'interne n'a pas débranché. Francine a été guérie. C'est vrai ou c'est faux? Et même, elle a pu se marier. Et même, elle est revenue dans le camp avec son mari, Thomas. Et même, il y a eu un petit Jérôme. N'est-ce pas? Comment voulez-vous que nous doutions de la puissance de Dieu? Nous ne vivons pas d'illusions. Nous sommes des hommes et des femmes qui connaissons les épreuves, les difficultés, qui se trouvent en face de certains défis. Est-ce que nous croyons? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Eh bien, nous voulons demander à Dieu que dans ces 15 journées ou cette semaine, pour ceux qui ne peuvent rester qu'une semaine, nous puissions faire l'expérience que quand nous nous confions dans cette parole de Dieu, nous ne sommes pas des bibliolates, nous n'adorons pas un livre, mais nous adorons celui qui a parlé dans ce livre, celui qui nous a donné une parole sûre que nous pouvons nous approprier, que nous mangeons vraiment, qui nous devient intérieur, qui ne reste pas des dogmes auxquels on croit plus ou moins, mais qui nous font vivre, comme le dit l'Écriture, « Ta parole m'a fait vivre ». Alors nous voulons simplement nous recueillir et demander à Dieu que ce camp Mahanaïm, qui est peut-être, presque certainement le dernier que nous faisons nous-mêmes, eh bien, que ce camp soit une bénédiction pour chacune de vos âmes. Dieu notre Père, c'est sous ton regard que nous plaçons ce camp et sous l'aspersion du sang précieux de Jésus-Christ. Nous savons que nous avons un terrible ennemi qui rôde autour de nous, cherchant qu'il pourra dévorer, mais nous croyons qu'il a été vaincu par Jésus. Et nous proclamons la victoire du sang de l'agneau sur toutes les puissances infernales qui voudraient peut-être retenir les âmes, qui voudraient peut-être les effrayer. Et nous voulons te demander que, jour après jour, en étudiant ta parole, nous puissions apprendre à te connaître, ô notre Dieu, et en même temps à nous connaître. Et nous connaissons mieux que nous puissions vivre vraiment cet évangile que nous avons trop souvent abandonné et qui se résume dans cette parole. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Mais comment pourrions-nous renoncer à nous-mêmes si nous n'avons pas appris à nous connaître? Et à nous connaître tellement à fond que nous en arrivions à avoir la nausée de notre moi. La nausée de ce centre négatif autour duquel nous tournons toujours notre moi. Pour être centré sur Jésus, le centre positif, pour pouvoir dire enfin, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que ce ne soit plus un texte, mais que ce soit la réalité de chacune de nos vies pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous avez certainement lu, mes amis, puisque vous êtes là, le petit dépliant qui annonçait ce camp Mahanaïm. Et vous avez encore en mémoire le but que nous poursuivons dans ce lieu. Et je pense que Déjà depuis votre arrivée, vous avez pu faire un petit tour et que vous vous êtes aperçu que nous ne vous avions pas trompé. Quand nous disons dans un cadre propice à la méditation, au partage et à la détente, cherchez dans les Écritures la vraie réponse à nos problèmes personnels, familiaux, sociaux et culturels. À la lumière des évangiles, retrouvez l'enseignement capital de Jésus. Si quelqu'un renonce, veut me suivre, qu'il renonce à soi-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même. Pour obéir de cœur à ce commandement, il est nécessaire d'apprendre à se connaître soi-même, indépendamment de notre piété. Et je suis heureux qu'ici, à Mahanaïm, nous ne soyons pas une église particulière. Ce n'est pas le camp d'une église particulière. Comme son nom l'indique, c'est le camp de Dieu. Mahanaïm, eh bien, c'est l'expression qui est sortie de la bouche de Jacob quand il a vu les anges de Dieu alors qu'il était effrayé par la nouvelle qui lui annonçait qu'Ésaü, son frère, qui 20 ans plus tôt voulait le tuer, que Ésaü venait maintenant avec 400 hommes armés contre lui. Il a eu peur, mais à ce moment-là, dans sa détresse, eh bien, Dieu le visite et il voit deux armées qui viennent à sa rencontre. Ce ne sont pas les armées d'Ésaü, c'est les anges. Et il s'écrie en voyant ces deux cohortes d'anges, mais c'est le camp de Dieu. Et il appela ce lieu Mahanaïm, le camp de Dieu. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et nous voudrions que vous vous sentiez vraiment, non pas dans un groupe sectaire, dans un groupe particulier, mais que vous puissiez réaliser qu'ici, nous sommes dans le camp de Dieu. Alors, si c'est le camp de Dieu, vous devez vous sentir chez vous, parce que chez lui. Non pas parce que chez nous, ce n'est pas à nous, c'est un lieu providentiel que nous louons depuis quelques 20 ans pour donner aux Québécois cette occasion de passer des vacances heureuses, mais en même temps dans le désir d'apprendre à connaître les choses éternelles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, et celles qui sont invisibles sont éternelles. Et nous continuons en disant dans ce but, pour obéir de cœur à ce commandement, donc de renoncer à soi-même, il est nécessaire d'apprendre à se connaître soi-même, indépendamment de notre piété, de notre justice, de nos expériences, de notre croyance ou de notre incroyance. Il se peut qu'il y ait parmi vous des incroyants, je n'en sais rien. Ce n'est pas en se plongeant en soi qu'on se trouve. Jésus est formel. Si quelqu'un veut sauver sa vie, qu'il la perde. Et c'est là la grande erreur, malgré tout ce que peuvent vous dire les psychologues. Parce que l'enseignement biblique est absolument contraire à l'enseignement que vous recevez dans les écoles du monde. Job ignorait cette exigence. Et cette connaissance de soi-même lui manquait. Et une telle lacune conduisit le Seigneur à faire passer son serviteur par une discipline qui n'était ni une punition pour des fautes cachées, ni un châtiment mettant en doute la puissance ou la justice de Dieu. Il s'agissait de la grâce et de l'amour divin. Une double bénédiction, comme nous aurons l'occasion de le voir, était réservée au patriarche et à la fin de sa rencontre personnelle avec le Dieu vivant, il pourrait s'écrier je sais que tu peux tout et que rien n'est trop difficile pour toi. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi j'ai horreur de moi et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Et nous avertissions ceux qui pouvaient être tentés de nous rejoindre afin de nous exposer au texte, de le pénétrer, de l'habiter. Nous demandons à chaque campeur et campeuse de participer à l'étude biblique du matin et au message spirituel du soir. Parce que très souvent, en voyant le programme aussi, qui concerne les activités sportives ou artistiques ou autres, eh bien, des gens téléphonent en disant « On aimerait bien venir à votre camp, mais est-ce que c'est possible de ne pas venir aux réunions ?» Alors, évidemment, ce camp, eh bien, il est fait dans un certain but, non pas de vous faire un lavage de cerveau, non pas de vous convertir à nos idées, mais il est fait dans un but précis de nourrir les âmes de la parole de Dieu. Alors, si l'on veut autre chose, trouver un autre camp, mais évidemment, les conditions matérielles ne seront pas aussi favorables. Qui n'a jamais fait le camp Mahanaïm? Oui, eh bien, nous vous souhaitons tout particulièrement la bienvenue. Alors, je vais vous lire maintenant l'horaire du camp. Nous désirons que vous puissiez vraiment vous reposer pendant ces journées. Alors, le réveil n'est qu'à 8 heures. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous dormez d'habitude dans vos demeures, mais le réveil officiel est à 8 heures et il se fait en musique. Vous entendrez passer près de vos tentes notre cher André Monette et vous serez réveillé en douceur. À 8h15, il y a des exercices physiques légers au bord de l'eau avec baignade. Cela est facultatif. Et tout à l'heure, quand nous ferons les présentations des responsables, Cathy Mercier et Julie vous donneront tous les renseignements désirables. À 9h, ici, nous avons le petit déjeuner. Mais juste avant le petit déjeuner, je donne une simple parole, le mot du jour, qui ouvre au fond la journée. Et nous déjeunons à 9h45. Nous avons alors des entretiens ou ateliers sur le livre de Job. Nous verrons comment Dieu nous dirigera. Et à 11h15, les activités récréatives variées sur terre ou sur l'eau. À 12h30, c'est la préparation pour le dîner. Et le dîner a lieu à 1h. À 1h30, nous avons ce que nous appelons habituellement le point du jour et qui a été formulé ici, évaluation de la journée et préparation en commun de la soirée. Vous êtes tous conviés, s'il fait beau, nous sommes sur la galerie et nous faisons un partage, nous apprenons ce qui, quels sont vos sentiments, si vous êtes heureux, si vous vous plaisez, si vous manque quelque chose, si vous avez eu froid la nuit, que sais-je encore, hein. Et on s'intéresse à vous sans s'ingérer dans les affaires d'autrui, mais enfin, vous sentez qu'il y a un intérêt d'amour pour vous. Et puis, on cherche aussi à satisfaire les désirs que vous pouvez avoir pour la préparation de la fin de la journée. Ensuite, à 14h, c'est le repos, un temps absolument libre, mais nous insistons pour que vous preniez ce repos et qu'en tout cas vous respectiez le silence pour que les autres aient aussi du repos. Vous pouvez évidemment, si vous ne voulez pas dormir, vous pouvez lire. Il y a une petite bibliothèque ici où vous pouvez prendre les livres que vous désirez. Mais vous les rendrez alors, n'est-ce pas? Parce qu'il est arrivé assez souvent qu'il y avait des livres intéressants et que les campeurs ou campeuses auraient voulu garder. Ils n'avaient plus pu en trouver un de ce genre à la librairie et ils auraient voulu partir avec ce livre-là. Mais alors, ils en privaient beaucoup d'autres. Alors, nous comptons sur votre honnêteté pour pouvoir les récupérer. À 15h, c'est l'ouverture de la cantine. Il y aura une petite cantine. Et la natation, la voile, le ski nautique, le canotage, rame, pédalo, si le Seigneur le permet, si le temps est favorable. À 15h30, alors les diverses activités, leçons de musique, artisanat, entretien spirituel. À 18h, fin des activités, préparation pour le souper. À 18h30, le souper. À 19h30, les sports organisés. Puis, à 20h, moment folklorique, film, diapositives, jeux divers. C'est cela qu'on décide au point du jour, d'après le temps et la température. Et à 20h45, lecture biblique et message spirituel sur le thème du camp qui, comme vous le savez, est « Connais-toi toi-même », non pas à la lumière des Grecs et de l'inscription qui se trouve sur le temple d'Apollon à Delphes, « Connais-toi toi-même », mais à la lumière du livre de Job. Et à 22h, une collation chaude, et à 23h, c'est l'extinction des feux. Ça, c'était l'horaire. Maintenant, il y a quelques règlements que nous voulons aussi juste vous lire pour que vous les ayez entendus. Vous pouvez les lire ailleurs aussi, mais quand vous êtes au bord de l'eau, toujours attendre le sauveteur. Nous avons un sauveteur national, c'est Julie Martel, et puis nous avons Cathy Mercier, qui a toujours été la responsable du bord de l'eau. Attendre le sauveteur, donc Julie ou Cathy, avant d'aller dans l'eau. Toujours demander au sauveteur ou à son aide avant de prendre une embarcation. Toujours demeurer dans le champ de vision du sauveteur. Il y a une chaise et puis on peut vous suivre. Alors, vous, tant que vous voyez la chaise et le drapeau, eh bien, vous êtes dans le champ de la vision du sauveteur. Si vous arrivez quelque chose, parce que le lac Memphramagog est magnifique, mais c'est un de ces lacs qui est aussi très vite mouvementé, comme le lac de mon pays, le lac de Neuchâtel ou le lac de Tibériade, que j'ai vu en quelques instants se démonter et avoir une véritable tempête, ce qui expliquait bien ce qui est arrivé aux disciples quand ils y étaient et leur peur de sombrer. Un dernier point au sujet du bord de l'eau, toujours porter un gilet de sauvetage dans une embarcation. Vous ne partez pas dans une embarcation sans gilet de sauvetage. Un autre point au sujet de la salle à manger. Alors, vous vous approchez de la salle à manger au son de la première cloche. Vous vous réunissez ici ou sur la galerie. Puis, 5 minutes après, il y a une deuxième cloche. Et alors, à la deuxième cloche, nous entrons. Pour le service, comme on vous l'a déjà dit ce soir, une seule personne par table se lève. Alors, ce que nous aimons, c'est que ce ne soit pas toujours la même, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un moyen de ne pas se lever, c'est de se mettre derrière, hein, bien coincé. Alors, forcément, vous ne pouvez pas déranger tout le monde pour vous lever. Eh bien, changez aussi de place. Et puis, vous apprendrez à vous connaître les uns les autres et à servir. L'amour, il aime servir. L'égoïsme, il aime être servi. Alors, on peut déjà voir facilement, sans regarder trop près, le caractère de plusieurs. Est-ce que vous aimez servir ou est-ce que vous aimez être servi? Et quand vous allez à la cuisine, vous ne dépassez pas le comptoir parce que cela est réservé au personnel de la cuisine. Maintenant, un troisième point, dans le camp, toujours déposer dans les poubelles tous les papiers. Nous avions le camp des enfants, alors on parlait des couches, des serviettes et des tampons. Bon, pour le camp, mais c'est pour tous les camps. Vous ne laissez pas traîner les choses, vous ne jetez rien, mais vous avez des poubelles. Nous désirons que le camp de Dieu soit un camp propre, selon ce qu'il est dit dans le Deutéronome chapitre 23. Dieu a ses regards sur le camp, et Dieu est un Dieu saint. Toujours rabattre, alors ça vous trouverez que nous exagérons peut-être, toujours rabattre les couvercles des toilettes après usage. On constate trop souvent que quand on va dans les toilettes, eh bien quelqu'un y a passé mais n'a pas rabattu le couvercle. Et on se demande pourquoi il y a des couvercles dans les toilettes. Pourquoi au monde est-ce qu'il y a des couvercles dans les toilettes? C'est pour qu'il reste levé? C'est pour qu'on l'abaisse. Alors il faut y penser. Pour quelle raison? Parce que il y a une certaine compagnie qui ne fait jamais la grève. C'est celle des mouches. Et ce sont des transporteurs efficaces. Et des toilettes, ils vont à la cuisine. Comme ça. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, soyez sérieux, pensez un peu, et dites-vous bien que les mouches ne sont pas en grève. Et nous ne voulons pas d'épidémie dans ce camp. Nous n'en avons jamais eu, par la grâce de Dieu, mais aussi par une certaine discipline que nous nous imposons. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça porte du fruit. Il y a des personnes qui m'ont dit en France, tu sais, depuis que notre fils est allé à Mahanaïm, il rabat le couvercle. Chez eux, ce qu'ils ne faisaient jamais. Alors, nous espérons que vous apprendrez au moins à rabattre le couvercle. Pour que ce soit comme un tombeau. Maintenant, toujours respecter le sommeil des autres durant la sieste et après l'extinction des feux. Et quand vous quittez le camp, pour une raison ou une autre, avertir une des personnes responsables que vous devez quitter le camp pour un moment, que sais-je, mais pour que, si jamais, malgré la grève du bel, on vous appelait, on puisse dire qu'on n'est pas au fond du lac. Parce qu'on ne sait pas si on vous cherche partout et vous n'êtes pas là. Mais on peut dire, cette personne est loin pour un peu de temps. Mais nous avons une réponse à donner qui peut rassurer un être qui peut-être vous est cher et qui voudrait avoir de vos nouvelles. Enfin, nous vous signalons, c'est renseignement important, l'eau potable se trouve au robinet près de la cuisine, là. Et le téléphone est à l'intérieur de la cuisine, mais il doit rester libre pour les besoins essentiels du camp. Nous vous mettons en garde de faire des longues conversations parce qu'il y a peut-être un appel qui doit venir. Et tout appel interurbain doit être fait à frais virés. Souvenez-vous bien de cela. Il est interdit de fumer dans le camp. Ça, ce n'est pas notre loi. C'est la loi de la province. Parce que ce serait quelque chose d'épouvantable si, à cause de votre imprudence, il y avait un feu ici. On nous a dit, et il y a souvent du vent, que de Magog à Georgeville, ce serait complètement embrasé. Et il y a 15 jours, dans l'Ontario, on ne comptait plus les feux de forêt. C'est un désastre. Alors, attention, hein. Veillez à ce décor, parce que vous voyez, ce sont des cèdres, et il suffirait de si peu pour qu'on détruise tout un témoignage qui a une centaine d'années, il y a 100 ans, cette maison a 100 ans, hein. Mais vous voyez, elle est sèche. Et tout pourrait flamber. Alors, nous comptons sur vous. Alors, s'il est interdit de fumer dans le camp, le seul lieu autorisé se trouve à l'embranchement des chemins autour du rocher, là près du parc des automobiles. Quelqu'un l'a appelé le rocher de la désolation. Mais il y en a qui se consolent. Parce que nous devons vous dire que la direction du camp a dû s'engager par écrit qu'il en serait ainsi, que nous promettions, que nous nous engagions qu'il n'y aurait pas de personnes fumant dans le camp. Maintenant, une infirmière comme un docteur sont à votre disposition pour blessures ou maladies légères. Maintenant, je vous fais les présentations d'abord du personnel, puis ensuite nous aurons les autres. Je vous présente ma femme. Vous avez déjà deviné, peut-être. Eva, qui est médecin, docteur, professeur, et qui donne tout ce qu'elle peut pour que, depuis tant d'années, nous ayons ces camps. Alors, je lui laisse la parole pour qu'elle puisse vous dire ce qui est sur son cœur, ce qu'elle désire. Vous ne perdez rien pour attendre. Alors, maintenant je voudrais présenter nos collaborateurs de la première heure qui ont fait aussi le premier camp avec nous, Françoise et Josapha Ferland, et qui vous diront leurs occupations, leurs responsabilités. Oui, puis toute espèce de chose, hein. On ne vous dit pas tout. Cathy, qui vient depuis la France, depuis le premier camp, et même avant le premier camp, quand on est allé. Merci, Cathy. Julie, tu as quelque chose à dire? Tu peux te lever, que tout le monde te voit. Nous sommes très heureux d'avoir Julie aussi, parce qu'elle a commencé ici dans le camp nos travaux, et puis elle a eu à cœur de passer son diplôme de sauveteur national. Et nous en sommes très heureux. Maintenant, André, Monette et Janine, qui sont aussi les plus anciens.
3 ans et plus. Donc, on a 3 ans à 15, 16, 17 ans. On n'atteint pas au niveau de conservatoire. Donc, c'est très bien aussi, parce qu'ici, il n'est pas un cas.
Et alors, maintenant, je voudrais donner la parole à notre cuisinière, parce que c'est absolument important qu'elle puisse vous dire aussi ce qu'elle pense. Muriel, qui est la sœur de Gaston Jolin. Tout va bien? Alors, on te remercie, Madame la Marquise, puisque tout va très bien.
Je voudrais rajouter, Gaston, tout de suite, que la cuisine, c'est le royaume de Muriel. Alors, la cuisine, c'est pas la place où vous allez boire de l'eau. On prend un verre ou une tasse. On a des bols que vous pouvez prendre si vous en voulez. Il y a une fontaine aussi. Mais il n'y a pas de va-et-vient dans la cuisine, c'est interdit dans une place publique. Les inspecteurs sont très à cheval là-dessus. Alors, je dois vous restreindre dans ce domaine-là.
Mais on peut vous passer des récipients pour que vous ayez de l'eau avec vous, que vous prenez là, puisque c'est le courant. Et les aides de Muriel, pour qu'elles soient connues, elles sont où? Joanne? Tout le monde a compris? Alors, un peu plus fort. Micheline Trottier. Karine Marcoux, qui aide à la cuisine. Maintenant, Noël et Francine Aubu. Merci Noël. Non, je vais vous présenter nos deux oncles. Des collaborateurs aussi de longue date et qui nous aident beaucoup et dont la présence est bien efficace. Roméo Grenier, qui a beaucoup travaillé pour que le camp soit propre aussi et que le rang croche ne soit pas croche. Et l'oncle André? C'est moi. Et maintenant, il y a les garçons qui nous aident et qui travaillent dans le camp. Ils sont là? Où sont les siffleux? Ah, oui. Alors, Jean-Samuel, qui est notre petit-fils, et puis Samuel. Il y a deux Samuel ici. Comment? Une femme. C'est les éléments de propreté. Hein? Oui. Il paraît que je dois vous parler de chewing-gum. Et c'est vrai que c'est empoisonnant. L'autre jour, je l'ai fait remarquer à une petite fille quand même. On est sur une chaise, puis vous mettez votre main dessus comme ça. Pouf! Ils ont collé cette histoire là-dessus. Alors, nous avons ça en horreur. Puis encore, il y en a qui ont de ces manières, hein. Ils sont là en mâché, puis tout à coup, ça sort. Je ne sais pas ce qui arrive. Oh, c'est pas très intéressant. Et surtout alors, si vous l'avez sur un pantalon, on ne sait jamais où, hein, ça. On va coller ça, ou vous mettez vos mains sous la table quand vous dînez, puis vous trouvez cela. Ben, sachons un peu vivre quand on est chrétien. Et puis, c'est pas bon pour les dents, alors. Je ne veux pas faire de réclame pour les dentistes. Maintenant, c'est le moment, alors, de demander à chacun de se présenter, puis nous dire peut-être donc leur occupation, le lieu où ils habitent, pour qu'on ait un peu une idée, et puis peut-être vos motivations, pourquoi êtes-vous venu au camp. Alors, on peut commencer par vous, comme ça, on ira comme ça, plus courageux.
Mon nom est François Caron, je viens de Sainte-Thérèse. J'ai décidé de venir au camp ce matin en avant.
Merci. les parents de Samuel, hein?
Oui.
Bon, mon nom, c'est Bernard. C'est Mélette-Odette. Je me rencontre dans la péninsule, ces choses-là, de rénovation. Non, c'est justement Jacques qui nous avait parlé du camp. Si on vous avait déjà entendu dans une réunion annuelle, ça nous avait bien aidé. L'intervention, c'est de grandir aussi.
Ah, merci.
Je m'appelle Nicole Monette, c'est mère à Val-d'Anville, et je suis secrétaire pour ma mère. Puis, c'est les 15 jours de vacances, et puis moi, j'ai besoin de quelqu'un dans mon appartement.
Moi, je suis Daniel Martin, je suis de Terrebonne. Je suis un super mentor à Canada, puis je suis venu ici pour avoir une rencontre personnelle.
Maria Bouchard, téléphonée du tournage, et puis mon but c'est d'approfondir ma connaissance avec Dieu et approfondir ma relation avec Dieu.
J'habite à Montréal, puis je vis au camp pour venir comme à la là. Particulièrement, j'ai été attiré par la vie de Jacques.
C'est ça. Bien.
Bonjour, mon nom c'est Michel Avoy. J'ai été attiré à l'Institut par la lecture d'un pamphlet, justement. Puis aussi, mon but c'est de refonder, puis de me recontacter, puis plus profondément que j'aime.
Bien.
Mon nom c'est Pierre Yourvet, je suis technicien, je viens de Montréal. Et puis, j'ai juste travaillé ici au camp l'été passé. Ça va bien une chose, c'est familial. Et puis, je vais retourner, c'était pour prendre des vacances.
Mon nom c'est Jean-Paul Denis, je viens de Valais, je suis venu à la présidence de la République.
Merci Rachel. Rachel est la nièce de Muriel, la cuisinière, pour vous dévoiler les secrets. Et on peut continuer.
Mon nom, c'est Claude Renaud. Je suis à Montréal, je suis à Montréal. Je suis ici pour grandir maintenant.
Mon nom, c'est Jérôme Saint-Germain. Je suis technologue, je suis intendant pour la Vallée. Je suis venu pour détendre.
Carson, Ontario. Je suis, moi je pourrais bien dire, à demi-retiré, forcé, puisque j'ai beaucoup mal dans le dos. Et je ne peux plus travailler, ça fait que j'ai un bloc appartement. Le Seigneur permet que je puisse vivre avec ça. Et puis je suis venu au camp, c'est la quatrième fois, je crois, que je viens au camp. On n'est pas venu il y a deux ans, puisqu'on a construit une chapelle à Hearst. Le Seigneur nous a vraiment bénis. M. Racine est venu l'année passée. Et puis cette année, on a encore l'intention de lui demander de revenir. C'est toujours une bénédiction. Et aussi dans le camp, si j'aime bien le camp parce qu'on se propose bien. Et on peut quand bien même s'instruire. Je me souviens très bien que la première fois que je suis venu, c'était sur les proverbes que je disais à ma femme, je disais, ben, je me demande bien que c'est que je m'en allais prendre des proverbes. Ça fait que ça avait été ça. Et j'ai vraiment appris.
Merci, Guy. Eh bien, nous bénissons Dieu pour votre présence. Nous en sommes si heureux. Et je dirais, je n'ai pas parlé de lieu de prière, mais si vous avez un peu de flair, vous vous rendrez compte qu'il y a des lieux de prière dans le camp, et en particulier là, au Rancroche. Et je sais que vous pourrez vous joindre à ceux qui et m'apporter dans la prière ce camp, mais rien n'est formel. La prière doit être volontaire.
Mon nom est Angèle Monod, j'habite Montréal, je suis enseignante, et puis quand j'ai dit qu'on étudierait avec les jeunes, je fais des
études. Angèle a enseigné les enfants au camp. Des enfants qui viennent de se terminer ce matin. Et nous en sommes très reconnaissants.
C'est de Dieu dans tout ce que je fais.
Merci. Attends, Rosine, je t'ai gardé pour la dernière, pour que tu sois la première. Larry.
Mon nom, c'est Larry Lamsa. Je suis technicien mécanicien aéronef. Je travaille à Paris-Roussigny. Je suis inspecteur. Je respecte le réacteur d'Avion. Grande responsabilité. Je tiens à vous dire pourquoi je suis venu ici, c'est parce que ça fait longtemps que j'entendais parler du camp Mahanaïm. J'allais au Saint-Domingue de Mahanaïm à Châteauvieux. Et à force d'écouter les cassettes de Michel Racine sur les programmes, sur les cantiques, je me suis dit cette année, oui, j'y vais. Vous voulez que je vous remercie, c'est ça. Emmenez-moi avec ça de l'air, c'est la première fois que je suis ici. J'ai expérimenté ce soir ma première pêche. J'ai pogné un accident. J'ai pogné ça en bas. Donc, je l'ai remis à l'eau parce que je pensais pas que Gabriel allait garder ici, qu'on peut peut-être faire un petit repas avec ça. Donc, peut-être que demain, ça va.
Alors. J'ai gardé pour la fin, pour qu'elle soit vraiment la première, puisqu'il l'écrit. Comment? Ils sont tellement dans mon cœur. Non, alors, hein? Alors, lève-toi, Jean-Bernard.
Bon, moi, Jean-Bernard Racine, je suis celui dont tu parlais tout à l'heure. Vous voyez, Alors, je suis enseigné à Lausanne et j'ai écrit un livre sur le Canada. J'ai été invité par le gouvernement du Canada à visiter tout le pays pendant tout l'été. Alors, je suis venu et puis ma femme n'a pas envie de. Elle préférait venir ici plutôt que d'aller à Inuvik et à Probicherve. Je vais tout seul, mais je viendrai le week-end avec vous, je suis très content. C'est 8 ans que je n'ai pas passé dans ce camp où j'ai beaucoup reçu. Je prie pour vous les aider quand il y en a, cette fois je vais plus près pour penser à vous.
Les enfants les plus importants, je suis contente de venir ici pour vous réunir.
Et pour les amateurs de pétanque, je vous dis qu'elle y est forte. Alors, maintenant c'est Rosine, qui est notre infirmière. Mais lève-toi.
Je suis infirmière en santé publique au Labrador et je suis nouvelle retraitée. Pour avoir un peu plus de temps, travailler bénévolement. Le français s'approche encore parce qu'on part toujours l'anglais au Labrador. Je suis venue pour beaucoup de raisons, pour donner si on veut, mais aussi égoïstiquement pour recevoir et pour ce que aussi l'enseignement du jour. Comme je pense que c'est avec des personnes
Je pense que je livre déjà de donner beaucoup, c'est une étape spéciale et je pense que je ne suis pas déçue.
Bien. Alors, mes amis, il y avait un petit problème, une difficulté quand ici on se réunit. Chacun a sa version, sa traduction du livre de la Bible. Elles sont toutes très bonnes, elles ont certains avantages. Il y en a qui ont la Bible de Jérusalem, il y en a qui ont les moines de Maretsou, il y en a qui ont second, et puis d'autres encore. Et pour qu'on puisse vraiment étudier ce livre d'une façon communautaire, j'ai été conduit à choisir la version La Colombe, qui est la version second révisée, du livre de Job. Et je vous ai fait ce petit livre du livre de Job. C'est fait à la main, on a fait les photocopies, et puis j'ai monté cela comme ça. Alors, le livre de Job, connais-toi toi-même. Je vous en donne un à chacun et vous étudierez d'après ce livre, mais tout en ayant vos Bibles, n'est-ce pas? Vous gardez vos Bibles et puis vous faites des comparaisons. Et c'est en suivant ainsi que je crois que nous pourrons avoir quelque chose de sérieux. Mais, oui. Je vais juste vous renseigner là-dessus comment je vois les choses. Le livre de Job, comme vous le savez, a 42 chapitres. Alors, c'est vraiment relever un défi que de prétendre étudier le livre de Job en 2 semaines. Et pour plusieurs, vous restez qu'une semaine. C'est pour ça que nous favorisons toujours ceux qui peuvent rester 2 semaines parce qu'ils ont un enseignement complet. Donc, la première méditation sur le livre de Job aura lieu dimanche soir. Nous étudierons le chapitre 1er et le chapitre 2, qui est le prologue, demain soir. Il y a 35 versets, mais vous pouvez déjà le lire, hein, pour que vous en ayez la connaissance. Lundi matin, nous étudierons le chapitre 3, il y a 26 versets. Lundi soir, nous survolerons le chapitre 4 et 5, le premier discours d'Éliphaz, d'un des amis de Job. Ça fait 48 versets. Le mardi matin, nous aurons les chapitres 6 et 7, 51 versets, qui sont la réponse de Job au discours d'Éliphaz. Le mardi soir, nous aurons alors les chapitres 8, 9 et 10, qui font 79 versets. Nous devrons survoler certains de ces versets, mais je pense que l'essentiel, vous pourrez le saisir. Mercredi soir, nous aurons les chapitres 14 et 15, qui se composent de 56 versets. Jeudi matin, les chapitres 16 et 17, ce qui fait 38 versets. Et jeudi soir, les chapitres 18 et 19 qui font 50 versets, et vendredi matin, notre dernière étude de cette première partie du camp, qui feront chapitres 20 et 21. Nous serons arrivés, Dieu voulant, vendredi matin, à la moitié du livre de Job, qui fait 63 versets pour ce vendredi matin. Le vendredi soir, comme plusieurs partiront le samedi, ce sera la réunion de témoignages. Et ensuite, nous reprendrons, alors je ne dis pas ça maintenant, nous reprendrons la suite de cette étude, les 21 autres chapitres. être depuis le dimanche suivant. Et le samedi soir, je consacrerai à une récapitulation pour les nouveaux qui seront venus de ce qu'on a vu, un résumé de ce qu'on a vu. Et c'est ainsi que je crois que nous pourrons relever ce défi avec l'aide du Seigneur et que vous aurez une grande bénédiction par la lecture de ce livre de Job. Maintenant, vous avez vu qu'il y a des livres là, de l'autre côté. Et c'est donc André et Françoise qui s'en occupent. Je voudrais seulement vous dire une chose. Comme ce petit livre-là vous est offert gratuitement au souvenir de ce camp, je viens de pouvoir terminer l'édition de cette série pour le connaître lui, dont plusieurs ont eu connaissance, soit par la télévision. Gaston Jolin les a proposés à plusieurs auditeurs. C'était « Dieu est-il responsable du péché ?» Puis « L'athéisme pratique ?» Ensuite « Croyance ou foi ?» Ensuite « Connaissance ou obéissance ?» C'est un enseignement progressif. C'était dans les années 56 que je donnais ces conférences dans une salle publique de Nice, dans une salle de théâtre. Et il n'y avait pas de prière, on ne priait pas, on n'imposait pas quelque chose de, une forme religieuse quelconque, mais j'apportais la parole. Et on a commencé par « Dieu est-il responsable du péché ?» Alors il y avait beaucoup d'athées qui venaient, des gens qui étaient en villégiature et qui ont été attirés par cette première conférence. Puis le mardi suivant, je faisais la seconde. Chaque conférence est donc complète en elle-même, mais prépare à faire un pas de plus. Hein. Et ensuite, nous arrivions à, après l'athéisme pratique, croyance ou foi, la différence entre la croyance et la foi, la différence entre la connaissance et l'obéissance, puis seulement après, que pensez-vous du Christ ? Seulement après, parce que le nom de Jésus, c'est un nom sacré, et nous ne voulons le prononcer que quand les âmes sont capables de l'entendre. On ne met pas le nom de Jésus à toutes les sauces. Donc c'était la cinquième conférence, alors nous présentions vraiment la personne de Christ. Et c'est seulement pour vous expliquer, des gens nous disent, mais plus on lit vos conférences, plus c'est profond, plus elles sont bonnes. Plus elles sont bonnes. C'est-à-dire que pour les premiers, ils n'auraient pas été capables de comprendre. Le Seigneur ne disait pas tout à la fois. Il dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas, vous n'êtes pas capable de les recevoir. Alors, vous verrez qu'il y a évidemment une gradation. Que pensez-vous du Christ ? Et le Christ, une de ses premières paroles, a été au théologien Nicodème, peut-on être de nouveau ? Enfin, la nouvelle naissance, ça va plus loin. Et une fois qu'on est né de nouveau, on peut aborder vraiment l'homme face à la souffrance. Avant, on n'y comprend rien. Mais une fois qu'on est né de nouveau, alors on peut saisir le pourquoi de la souffrance, l'homme face à la souffrance, et puis une autre question, l'homme face à la mort, ce qui préoccupe quand même toujours le monde. Et pour ne pas en rester sur la mort, vivre, hein, la vie en rose, vivre, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que vivre ? Puis on a terminé par quatre conférences, l'homme et sa destinée, le monde et sa destinée, l'Église et sa destinée, et finalement Israël et sa destinée. Et j'étais assez saisi en relisant simplement ce que j'avais dit, c'est une deuxième édition ça, mais qui est plus présentable que la première, on faisait ça très rapidement, il n'y avait pas d'enregistreuse. Et je rentrais chez moi et puis je me rappelais ce que j'avais dit et je composais comme ça et puis on le donnait à l'imprimeur. Eh bien, j'ai été frappé, c'est comme si c'était pour aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Sont-elles encore actuelles ? Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Et c'est cela qui est notre force, de pouvoir prêcher non pas nos idées, qui peuvent changer, évoluer, mais la parole de Dieu. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes autorisé à en prendre, il y en a 13 ici, vous pouvez en prendre gratuitement une de chaque, hein, chacun. Vous aurez ça comme souvenir. Et puis après, si vous en voulez, eh bien, vous pourrez alors en avoir. Mais elles vous sont données gratuitement pour simplement vous en ayez connaissance. À ce sujet, je voudrais aussi vous dire que les livres qui sont exposés sont des livres remarquables, mais qui, forcément, c'est les éditions modernes et elles sont assez chères. Alors, ne les prenez pas, ne les touchez pas après les repas. Attendez, non, vous savez pourquoi? Hein? Parce que si vous y allez avec des mains non lavées, c'est plus vendable. C'est pas parce qu'on voudrait vendre, mais j'ai des comptes à rendre. N'est-ce pas? On m'a donné, fait un dépôt, alors je dois rendre cela. Et une fois qu'un livre est taché, et c'est tellement vite fait, ou à vos empreintes digitales, eh bien, on peut plus le vendre. Alors, ne touchez pas les livres avant de vous être lavé les mains. Vous me direz que c'est un conseil un peu stupide, mais on doit le faire puisqu'on voit si souvent qu'on l'oublie. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, nous allons terminer et nous allons avoir la collation. Je demanderai à notre frère Noël de terminer par la prière. Oui.